Ah, bon. Ça fonctionne. Super. Bon, il semblerait que les ateliers se soient très bien passés, mais ça reste à confirmer, bien sûr, maintenant qu'on va partager les résultats. Donc, ce que je propose, c'est que ça soit vraiment très très libre, hein, comme présentation et comme discussion. Donc, on peut poser les questions, bien entendu, au fur et à mesure, et ça peut rapidement prendre la forme d'un échange avec la salle. Il y a donc un micro qui va circuler au besoin, dès qu'il y a une intervention dans la salle. N'oubliez pas deux choses, de rappeler votre nom quand vous intervenez et, si vous partez, de rendre ce petit badge. Alors, on commence par le numéro 1, Bruno.
Oui, voilà, donc je suis ici le porte-parole de l'atelier numéro 1 qui devait se pencher sur la question de l'usage des indicateurs. Alors, nos discussions ont porté sur évidemment un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'usages qui pouvaient en être faits, et la première conclusion à laquelle nous sommes arrivés, et qui n'est pas encore une proposition, qui est simplement une conclusion, c'est que clairement, les usages doivent être différents d'une discipline à l'autre, différents aussi d'un appel à mandat à l'autre, et donc il faut absolument introduire une souplesse et rendre un peu d'autonomie, hein, aux différentes commissions, par exemple des commissions du FNRS, ou des commissions de sélection de candidats, sur la manière dont elles voudront utiliser les indicateurs. Hein. Et elles doivent pouvoir évidemment l'annoncer aux gens qui se présenteront, ça veut dire que, typiquement, elles vont devoir se prononcer pour, avant même un appel, hein, sur le type d'usage qu'elles voudront faire de quels indicateurs, en gros. Hein. Ça, c'est une réflexion générale, je crois, qui peut être assez qui a été consensuelle entre nous, précisément parce qu'on ne pouvait pas tomber d'accord sur l'usage de tel indicateur, parce qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on allait faire d'une discipline à l'autre ou d'un niveau de candidature à l'autre. Alors, on n'a pas du tout été récalcitrant, on nous avait dit, traduisez votre discussion en quatre propositions, on a réussi à sortir quatre propositions. C'est parce qu'on est très conforme et on est très bon, c'est très poli. Alors, pardon ? On sera bien évalué. Ah, merci. On a tout fait pour. Alors, ces propositions donc, se déclinent toujours sur ce mode. Hein, l'idée, c'est les commissions devraient pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie sûre, en gros. Hein. Alors, la première chose, c'est les commissions devraient pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie et pouvoir se prononcer sur les données dont elles devraient disposer. C'est-à-dire, elles devraient pouvoir modifier en gros les formulaires de candidature, hein, au moins certaines cases d'entre elles, pour pouvoir dire, je voudrais que les candidats, oui, les impétrants, me fournissent telle ou telle donnée. Et par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas le H-index. Ou au contraire, moi, j'en ai besoin. Et ces données, ce sont certaines données quantitatives, des indicateurs, et puis aussi elle pourrait proposer certains autres cadres, hein, en disant ça c'est typiquement les données dont nous allons avoir besoin dans notre discipline. Et évidemment, ces données elles peuvent varier d'un niveau de décision à l'autre. Pour reprendre le cas paradigmatique du FNRS, on ne va pas demander exactement les mêmes données à un chercheur aspirant, à un chargé de recherche ou à un chercheur qualifié. D'accord ? Et pour les projets de recherche, bien sûr. D'accord ? Donc première chose, c'est évidemment, elle devrait pouvoir travailler déjà sur le cadre. Et ça suppose évidemment que les commissions n'ont pas nécessairement exactement le même formulaire. Vous avez vu que c'est un travail en amont, c'est-à-dire on doit le faire avant l'appel. Hein ? On doit le faire avant l'appel. Deuxièmement, pour éviter une certaine course à la quantité de publications, où les gens croient qu'ils doivent toujours en faire plus, pour rester concurrentiel, il faudrait peut-être annoncer un seuil minimum de quantitatif, de publication, de réalisation, etc., et qui devrait dépendre d'une discipline à l'autre. Donc, de nouveau, la commission devrait annoncer ce qui, dans sa discipline, ou dans les disciplines dont elle a la charge, pourrait être le seuil minimum qui serait les conditions nécessaires pour pouvoir éventuellement être promu. Et puis, au-delà de ce seuil, une fois que les gens l'ont atteint, on devrait leur envoyer le message que ça ne sert à rien de faire toujours plus. Maintenant, travaillez surtout pour faire des articles bons. Pas plus, mais des bons.
Mais bon, c'est pas nécessaire.
Mais c'est-à-dire que les gens sachent qu'il y a les conditions suffisantes, hein, il y a les conditions nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. On ne va pas dire, désormais, on engage tous ceux qui ont hein, tel niveau, mais par contre, au-delà de ça, c'est pas tellement important de progresser en quantité, mais par contre, on voit les attentes sur la qualité. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire, les attentes sur la quantité, d'accord? Donc, ces seuils minimums qui doivent être évidemment accessibles, hein, il faut pas que ces seuils minimums soient déjà dissuasifs de sorte qu'il y en aura qu'un qui l'atteindra, et celui-là, forcément, il sera sélectionné, hein. Ça doit être un seuil minimum raisonnable, accessible, par un nombre raisonnable, par un nombre de candidats raisonnables. Et puis, au-delà de ça, on considère qu'on ne va pas seulement les trancher sur la quantité, mais plutôt sur des indicatifs, sur des indications de type qualitative. Alors,
on peut poser des questions.
Mais je vais peut-être dire les trois, je vais dire les quatre, je vais dire les quatre, et puis d'ailleurs, je ne serai pas le seul à répondre, on sera tous. Pour ces indications qualitatives complémentaires, si on peut dire, de ces indications minimales qui sont de type quantitatif, mais qui ne sont pas forcément HADEX, et la commission va pouvoir dire, moi, chez moi, ce sera HADEX 13, et chez moi, ce sera au moins 4 publications dans une revue A, et chez moi, ce sera 2 publications, quelles qu'elles soient, et chez moi, ce sera au moins des conférences à l'étranger. Chaque commission pourrait dire, voilà mon seuil minimal. Bon. Alors, troisième point, c'est, ben, pour la qualité, ben, il faut que, à un moment, quelqu'un lise les textes. Hein, quelqu'un lise les textes. Alors, il nous a semblé que la manière dont aujourd'hui les experts extérieurs à la commission décisionnelle étaient interrogés manquait un peu de précision, de sorte que quand on leur dit « dites-nous ce que vous pensez de ce candidat », ils ont tendance eux-mêmes à retomber sur les indicateurs. Or ça, cette information-là, la commission peut elle-même le faire, et on peut le faire, la commission peut compter. Elle peut regarder les indicateurs, et ça ne sert à rien que l'expert soit mandaté pour lui dire « j'ai vu qu'il avait cette publication ». Mais nous aussi. Hein, d'accord ? Donc un expert, typiquement, devrait lui poser des questions très spécifiques. On devrait lui dire « voici les trois publications que le candidat, les trois ou cinq, et de nouveau la commission devrait pouvoir dire combien elle veut en envoyer, etc. Et les questions qu'elle veut poser aux experts, mais elle devrait lui poser des questions plus spécifiques, comme par exemple, donc voici les publications, lisez-les, et dites-nous si ce chercheur produit un travail original et susceptible de renouveler son champ, s'il prend des risques, si, alors, il y avait quatre, je dois retomber sur les, c'était les questions qui étaient dans les parenthèses de, je ne les ai plus reprises. Oui, dans la présentation de l'atelier, donc précisément, on s'est dit, ben, c'est exactement ces questions-là qu'il faut poser. C'est-à-dire, s'il est original, s'il prend des risques, est-ce qu'une personne là, l'atelier ?
S'il est prudent.
Non. On n'avait pas pensé à ça, mais enfin, en gros, on voit bien, c'était des exemples de questions, mais on voit bien qu'une commission doit pouvoir dire quelles questions lui paraissent pertinentes. Il n'y a personne qui a l'atelier qui a...
Oui. Originalité, prise de risque, profondeur d'analyse.
Ah, profondeur d'analyse, oui.
Aspect pédagogique.
C'est ça. Voilà. Voilà le genre de questions qu'on devrait pouvoir poser aux experts. C'est-à-dire, typiquement, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à apprécier pour une commission, surtout si elle est interdisciplinaire et un peu distante des champs de recherche du candidat. Par contre, les experts qui sont pointus sur ce champ, eux, ils peuvent répondre à ces dimensions plus qualitatives. Et on ne faut surtout pas leur demander de nous répéter ce qu'on peut voir ici, à savoir que le chercheur a déjà un HADEX de tel ou tel type. Et alors, la quatrième proposition, elle est en fait très inspirée de ce qu'Isabelle Stenger a dit ce matin. C'est-à-dire, on devrait, les commissions devraient faire introduire dans les cadres, si on peut dire, sur lesquels doivent se prononcer les candidats, les cadres des formulaires qu'ils doivent remplir, etc., pour les obliger à se prononcer, d'une part, sur les enjeux de leur recherche, et ça, on se disait peut-être pas nécessairement les aspirants, c'est peut-être plus compliqué pour les aspirants de bien voir déjà, mais par contre, que les chargés de recherche ou des chercheurs qualifiés ou des enseignants qu'on va engager, enfin, d'accord, à un certain niveau, des post-docs, ils doivent quand même pouvoir construire un discours sur des enjeux de leur recherche, des enjeux sociétaux en général et un peu dans les cadres de ce qu'avait énoncé Isabelle Stenger ce matin. Se prononcer aussi sur leur parcours, il faut leur donner peut-être la possibilité de dire voilà pourquoi moi j'ai pris plus de temps pour. Sur leur stratégie de publication, c'est déjà proposé, mais pas seulement prospective, pas seulement pour le futur, voici ce que je veux faire, je vous promets, j'aurai 4 publications dans 2 ans. C'est aussi rétrospective, voici ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai plutôt privilégié cette manière-ci, j'ai attendu, d'accord, et on devrait permettre aux candidats de se prononcer à cet égard. La question s'est posée entre nous, si une part de cette manière de se prononcer devrait se faire pour certains appels, oralement ou pas, c'est-à-dire lors d'un interview. Est-ce qu'il doit se prononcer exclusivement par écrit, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient carrément une rencontre entre la commission et le candidat? Et ça, de nouveau, on pense que les commissions devraient pouvoir juger dans leur discipline et au niveau d'appel, si on peut dire, si c'est justifié ou pas d'avoir une interview. En particulier, l'interview a un avantage parfois pour repérer ce qui est propre à la manière dont le chercheur lui-même s'approprie son projet et ce qui relève exclusivement de la logique de son laboratoire qui a peut-être co-rédigé très largement son projet. Et ça, c'est intéressant de le rencontrer. Mais d'autre part, ça ne se justifie peut-être pas à tous égards. Et il faut éviter aussi tout ce qui serait les effets de séduction, disons, de la capacité oratoire de quelqu'un à parler brillamment, etc., s'il n'est pas capable, sur le contenu, de dire des choses intéressantes. Donc peut-être que parfois, par écrit, lui demander de se prononcer sur ces choses-là est au moins aussi intéressante que de l'interview oralement. Mais les commissions pourraient prendre des initiatives à cet égard-là. Alors, la seule compte, vous voyez les quatre propositions, j'ai besoin de les reconstituer, les redis, non, dans la formule. Alors, ces quatre propositions-là, donc, vous voyez bien que beaucoup d'initiatives aux commissions, et on dirait évidemment les commissions doivent quand même faire un travail un peu stable, c'est-à-dire une fois qu'elles annoncent ça, il faut que ça tienne pour un certain nombre d'années quand même, pour amener un peu de sécurité aussi aux chercheurs dans un champ, hein, parce qu'ils doivent savoir en gros que les critères ne vont pas tout le temps changer, etc. Ça, évidemment. Hein. Et alors, il y a une petite chose que je me permets d'ajouter maintenant, qu'on n'a pas discuté tous ensemble, mais qu'on vient de réévoquer. C'est-à-dire, bien sûr, si une commission décide ça, ça amène une clarté dans les processus décisionnels à cet endroit-là, et ça les change un petit peu par rapport à ce qui se fait de manière plus standard. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces chercheurs-là, ils ne seront pas évalués que par le FNRS, ils seront évalués, parfois ils seront candidats dans d'autres pays, etc. Et donc si ça ne change pas ailleurs, ils vont quand même avoir la même pression, hein, partout ailleurs. Donc c'est pas parce qu'on leur soulage, au FNRS, on leur propose d'autres candidatures, qu'ils ne vont pas quand même continuer à devoir réfléchir à leur achat index, parce qu'ils se disent, oui, mais il n'y a pas que le FNRS qui est ma chance, il faut que je reste compétitif à une échelle internationale. Enfin, bon. Est-ce que j'ai plus ou moins... Peut-être, je me tourne vers les gens de l'atelier 1.
Oui, moi j'ai une sérieuse objection à considérer que les commissions peuvent émettre des questionnaires uniques, parce que je pense que les commissions sont extrêmement diverses elles-mêmes dans leur culture. Je parlais ce matin de la commission de physique, c'est extrêmement varié entre les physiciens théoriciens et les physiciens expérimentateurs dans différents domaines. La commission de maths, il va y avoir des géomètres, il va y avoir des statisticiens, des probabilistes, peut-être des informaticiens, ils sont aussi dans la commission de maths. Donc je pense que c'est tout à fait illusoire de se dire il y a 13 commissions au FNRS qui aura 13 types de questionnaires. Il en faudra 50 ou 60. Parce que vous voulez aussi mettre des seuils. Et vous voulez dire, voilà, le seuil est de autant de papiers, puis on va devoir évaluer la qualité des papiers. Bon, c'est forcément le H-index, parce que je pense que vous n'avez rien trouvé d'autre. Donc, ça, ouais, comment vous allez évaluer la qualité?
C'est les gens pour les lire.
Comment vous allez évaluer la qualité?
On a demandé aux experts de les lire.
Mais enfin.
Il y a un seul minimal de quantité, et puis la qualité, on dit, c'est autre chose.
Mais comment vous évaluez le fait que la qualité suive? Comment on évalue ça?
Je crois que c'est une interprétation du. Tu as dit, après, c'est la qualité qui compte. Ah oui. Et je crois qu'on a pu comprendre après, dans la suite de la carrière, ce sera la qualité.
Non. Non. L'idée c'était, je me suis mal exprimé effectivement, l'idée c'était, plutôt que de dire aux gens, on va prendre ceux qui auront publié le plus. Et donc publier le plus possible, parce que nous on prendra en gros les 7 qui ont publié le plus, parce qu'on en a le droit à 7. Hein. On dit, seront sélectionnables, ceux qui auront publié le minimum ça. Et puis les 7, on va les choisir. Parmi ceux qui auront au minimum publié ça, on va les choisir sur des critères plus qualitatifs. Et à cet égard-là, c'est pas celui qui aura publié le plus qui sera nécessairement sélectionné, mais celui pour lequel on aura reçu un avis qualitatif, notamment des experts, etc.
Et comment tu compares ça? Parce que les experts ne vont pas lire tous les papiers de tous les candidats. Donc chaque expert va devoir lire les papiers d'un candidat et va dire ce papier sont très bons, ou bien il va quantifier. Comment tu quantifies?
Il va
les citations et les H-index.
Il va donner les appréciations qualitatives.
Mais ça,
il va répondre à la question.
Je donne des réponses. Ça dépendra des commissions et des disciplines. Dans certaines commissions, ce sera d'office A+, plus. Dans d'autres, ce sera A.
Mais on ne peut pas lui demander des commentaires qualitatifs avec des phrases.
Je pense qu'on peut demander des commentaires qualitatifs, mais c'est contradictoire avec le fait de dire qu'on va imposer des seuils.
Non, non. Alors, c'est la condition nécessaire. Condition nécessaire, c'est ça, c'est le seuil.
Variable de sous-discipline à sous-discipline.
Oui. Seuil, et puis après. Et puis après, ce qui fait la différence, une fois passé les conditions nécessaires, ce qui fait la différence, c'est des critères qualitatifs.
L'admissibilité, en fait.
C'est l'admissibilité, voilà. Hein, c'est l'admissibilité. Et au-delà, après, c'est plus exclusivement la quantité. Mais.
Non, c'est de l'achat.
De toute façon, on ne va pas trop.
Non, c'est pas l'achat index, c'est pas l'achat index. Mais non! Mais non, justement, le H-index, c'est, ce que, c'est dans les conditions nécessaires. Quelqu'un pourrait dire, chez nous, en dessous d'H-index 13, on ne compte plus. Hein? Mais il se fait qu'il y a une série de disciplines où il y a des experts qui savent écrire. Et ils savent écrire des phrases. Et ils peuvent dire autre chose que H-index 14. Ils peuvent dire, moi j'ai lu et je considère qu'il a renouvelé complètement le champ parce que ceci et ça, etc. Évidemment, tout ça, c'est pas comparable au sens où on ne s'est pas ordonné. On ne s'est pas ordonné, mais justement, on ne veut plus. On ne veut plus que ce soit simplement ordonnable. Ça veut dire que ça obligera une prise de décision de la commission ? Oui.
Tirage au sort.
Non, non, ça obligera une prise de décision de la commission. Des prises de responsabilité. Ouais, enfin bon, je parle trop.
Pas suffisamment peu pour que l'expert puisse lire tous les papiers, justement.
Oui, oui.
Le seuil, quand même, sera assez sélectif.
Oui, il faut que ce soit sélectif pour qu'on n'envoie pas aux experts des centaines de candidatures. Qui...
C'est une discussion qu'on peut continuer au drink.
Oui.
Michel.
Oui, bien. Bon, bonjour à tous. Donc, notre commission, enfin, notre atelier donc, était sur le dialogue entre les évaluateurs et les évalués. On était une quinzaine. Il se fait que la discussion a beaucoup tourné autour du modèle FNRS. Ça veut dire qu'on a surtout réfléchi en termes de projet de recherche, mais également mandat de recherche et toute cette procédure qui met donc en scène des experts, hein, un peu experts de premier rang, une commission. Et puis l'évaluer lui-même, et puis quelque part supervisant tout ça, ben, une administration, un conseil rectoral, un conseil d'administration. Donc il faut un peu penser à l'ensemble de ces acteurs quand on pense au dialogue entre les évalués et les évaluants. On tombe très vite d'accord évidemment sur les valeurs générales. Quand on parle de valeurs de respect, de responsabilité, je ne suis pas sûr que nous sommes tombés strictement d'accord sur des propositions précises. Donc je vais en citer quelques-unes. Mais je n'engage pas ici chacune des personnes qui a participé à la réunion. Hein. Bon, alors le premier point qui peut faire débat, c'est la question de la pré-réponse. C'est-à-dire qu'une fois que les experts de premier rang ont fourni leur évaluation, est-ce qu'on donne ou non le droit, ou est-ce qu'on exige, encourage ou décourage, l'évalué à répondre avant que la commission ne se réunisse ? Les avantages et les inconvénients, bien entendu. L'avantage, c'est qu'on donne un droit de réponse, ça veut dire toujours évidemment qu'on donne à la personne la possibilité de s'exprimer. L'inconvénient, ben, c'est une charge administrative supplémentaire, c'est lourd, c'est un travail de plus pour les évaluer, les évaluants, hein, parfois pour des réponses qui n'en valent pas la peine, lorsque manifestement l'expert est de mauvaise foi. Donc, allez, je dirais, je ne vais pas dire le consensus, mais ce que j'ai entendu des discussions, c'est que c'est une solution qui peut être à retenir pour les gros enjeux. Donc, typiquement, un chercheur qualifié, par exemple, qui propose, donc qui va être évalué pour un contrat permanent. Là, on peut imaginer qu'il y ait sur d'autres réponses qui s'exercent. Pour un gros projet, un ARC, bon, on ne va pas trancher au niveau européen, mais enfin, on imagine ce genre de choses. Bon, donc ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, c'est la rencontre de débriefing. Là, je crois qu'il y avait quand même un certain consensus. Donc une fois qu'un projet a été évalué, voilà, la décision a été rendue, on peut imaginer que quelqu'un, à un moment donné, va devoir rencontrer le candidat heureux et le candidat malheureux. Mais qui ? Bon, ça, c'est pas toujours clair. On imagine que ça se fait au moins au niveau de la commission, voire au niveau alors, des autorités de l'université. Mais l'idée, évidemment, est d'avoir une rencontre constructive. C'est une question à la fois de respect, de bonne gestion économique. Après tout, vous avez un employeur qui a payé quelqu'un pour soumettre un projet. Donc, quelque part, c'est une question de bonne gestion personnelle que cette personne soit rencontrée. Et qui est alors, qui est un dialogue constructif et non complaisant. Hein. Ça sert à rien de dire, t'es le meilleur du monde, mais t'as pas eu ton projet. Alors, je vais le citer, mais ça a beaucoup fait débat, c'est la question de l'anonymat. Donc, une proposition est que l'anonymat des experts soit levé. Tout le monde n'était pas d'accord autour de la...
Levable si l'expert...
On a finalement abouti à une proposition bis, qui était effectivement celle que vous venez de citer, qui était que l'expert au moins peut avoir la possibilité de lever son anonymat. Alors, quatrième point, ça c'était dans le premier cas, c'est bien identifier les rôles. À nouveau, il n'y avait pas un consensus parfait, mais il est clair qu'un expert doit être mandaté pour une mission qui était bien délimitée. Hein. Un des points auxquels, que moi je défends beaucoup d'ailleurs, c'est que, par exemple, des chercheurs peuvent être très bons, même s'ils ont une capacité d'interaction sociale relativement limitée. Ça arrive. Hein. L'expert, il doit être là. Il peut être là pour parler de la capacité d'interaction sociale, mais il peut également être là pour juger de la qualité technique d'un projet. C'est deux choses différentes et il ne faut pas mélanger les genres. Donc il faut être certain que l'expert soit bien informé de ce qui lui est demandé. Hein. Et puis alors vient la commission ensuite de pondérer et d'exécuter en fonction des consignes qui lui sont données. Alors, je suis déjà à 4, moi j'en ajoute 2. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir formuler ça comme une proposition concrète, mais on va dire, il vaut mieux parler en termes d'audit qu'en termes d'évaluation, ça a été dit ce matin par M. Marage. La question essentielle, évidemment, est que qu'est-ce qu'on fait d'une évaluation et à qui est-ce qui finalement elle doit être adressée. Donc, on imagine très bien que la façon la plus constructive de poser les choses est que l'évaluation permette à l'évalué de d'établir ses propres objectifs également. Hein. Bon, voilà. Je suis pas sûr que je peux écrire ça en termes tout à fait clair, mais ça pose effectivement la question de la raison pour laquelle on évalue et ce qu'on cherche par l'évaluation. Alors le dernier point, qui est plutôt c'est plus une idée de comment une façon de voir les choses que vraiment une proposition concrète, mais il est clair que des modalités d'évaluation est quelque chose qui doit être qui doit faire l'objet d'une discussion elle-même. Donc, il doit y avoir un dialogue qui s'installe entre les évalués, les évaluants, l'administration, etc., sur la façon dont on évalue la recherche. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais ça nous a paru un aspect essentiel d'un fonctionnement sain et d'une prise en charge, quelque part, par les chercheurs de leur responsabilité sociale. Le fait qu'ils aient leur mot à dire sur l'évaluation, ça fait partie de leur acte citoyen. Voilà.
Et s'il n'y a pas de questions, je passe directement la parole à Edwin.
Alors, le groupe 3, donc, c'était un groupe où on se penchait sur les projets et les personnes évaluées en situation qu'on avait appelée défavorable. Et on n'était pas nombreux, on n'était que 6, dont 2 animateurs. Donc je ne vais pas dire que c'est défavorable. Donc je ne vais pas dire qu'on est hyper représentatif, mais on est quand même arrivé à 5 propositions.
6 personnes, 5 propositions.
Oui, c'est ça. Nous, on a fait le 5 minimum.
Alors, première chose, c'est le fait, en tout cas, mais ça je pense que tout le monde serait d'accord, hein, qu'on ne doit pas viser à ce que tout le monde soit dans le même moule, et que, au contraire, on doit favoriser des profils qui ne sont ouverts sur la société. Alors, de quelle façon? Ça, c'est peut-être complexe, mais... On plaide pour un certain nombre de choses, par exemple sur le fait de permettre à des personnes extérieures à l'UNIF de donner des cours, alors que on a parfois été à l'inverse, on a voulu favoriser des gens qui étaient full-time recherche, et on a parfois limité cela, alors qu'il nous semble qu'il faut favoriser des ponts, en fait, entre des activités hors UNIF et intérieures de l'UNIF. D'autre part, on a aussi dit que cette mission qu'on a appelle parfois la troisième mission, qui est l'interaction avec la société, devrait être mieux définie, qu'on a des critères assez précis sur ce que c'est que la recherche, ce que c'est que l'enseignement. Par contre, cette troisième mission est très floue et qu'il y aurait une réflexivité à avoir qui pourrait être assez bénéfique. À ce niveau, au fait d'avoir des profils atypiques, on a considéré que parfois ça pouvait être intéressant d'avoir des interviews aussi, dans la mesure où sur le papier les profils atypiques seraient peut-être moins bien classés, mais en s'entretenant avec eux, on verrait peut-être une certaine profondeur. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxième point, c'est l'évaluation des projets qui sont en situation entre guillemets défavorable, c'est toujours par rapport à cet effet Mathieu, au fait de diminuer la concentration des moyens uniquement sur, sur les gros projets. Et là, on s'est dit que, bon, c'est des choses qui existent déjà, hein, mais qu'il faudrait peut-être encore affiner, qui est des instruments différents de financement accessibles pour différents profils de groupes de recherche. Donc, des profils voilà, internationaux, hyper pointus, d'autres types de profils. Bon, ça existe déjà, mais qu'il faudrait le maintenir en tout cas. Limiter le cumul des financements. Certains disent qu'il faudrait peut-être tenir compte des moyens d'un groupe quand on évalue les résultats. C'est évidemment difficile, hein, mais si, c'est vrai que vous avez un groupe, je prends un exemple de 20 personnes et un groupe de 3 personnes. Bon, celui de 20 personnes aura théoriquement plus de résultats. Donc quand on les compare, il faudrait en tenir compte. En même temps, on pourrait comprendre qu'on a envie d'avoir beaucoup de résultats et donc de favoriser le groupe de 20 personnes. Mais si on veut une diversité, l'idée est de tenir compte, si possible, de la proportionnalité des groupes et aussi de l'aspect crucial du financement. Donc certains faisaient état de certains petits groupes où le fait de ne pas avoir un certain financement pouvait très très fort limiter leurs activités, alors que dans d'autres groupes, ça n'allait pas changer grand-chose. Donc ça, ce sont des mesures pour favoriser la diversité, en fait, des groupes. Alors on disait aussi que, ça me semble important, que ce n'est pas nécessairement au niveau de l'évaluateur que ceci doit être fait. L'évaluateur doit avoir des critères assez clairs, mais c'est plutôt au niveau du gestionnaire, enfin de celui qui fait une politique de recherche, qui avec des évaluations différentes va favoriser alors éventuellement les petits. Voilà. Troisième élément, c'est la transposition de ce que je viens de dire, pas tellement sur les projets, mais alors maintenant sur les profils. Hein, comment faire pour mieux évaluer des profils atypiques. Et donc, là, c'est quelque chose qu'on dit qu'on fait, mais qu'on ne fait pas toujours, c'est qu'il faut tenir compte des trois missions, et donc que si une personne n'est pas beaucoup dans la recherche, parce qu'elle fait d'autres choses, eh bien, il faut en tenir compte dans son évaluation de la partie recherche de cette personne. La vulgarisation peut jouer un rôle. Alors, on a quand même bien dit aussi que c'est pas évident, c'est pas nécessairement facile d'évaluer les activités troisième mission sociale, parce que il s'agit pas uniquement d'aller faire toujours la même conférence quelque part ou d'être toujours dans le même groupe d'experts de son quartier en disant vous voyez j'ai plein d'activités donc ça n'est pas si simple non plus, hein. Donc attention, c'est pas une autoroute, mais c'est ces trois missions, ces différents éléments qui devraient être mieux reconnus, évidemment, qui vont dans le sens de ce qu'a dit aussi Isabelle Stenger ce matin. On a aussi, et ça c'est ce que vous avez dit, je crois, l'un des deux rapporteurs, je crois que c'était toi, Bruno, sur le fait d'avoir un droit de réponse. C'est toi, ok. Donc on était aussi arrivé à ça avec un droit de réponse. Il semble que ça existe aux Pays-Bas. Barbara était dans des commissions de ce genre-là. Donc ça, on est arrivé dessus aussi. Et puis alors, deux autres propositions, c'est plus court. Il y a un jeune chercheur parmi nous, je ne vais pas le dénoncer, dans notre groupe, qui a relevé l'idée qu'on forme beaucoup de doctorants et qu'après, on sait qu'il y en a plein qui ne vont pas rester à l'UNIF, qui ne vont pas rester dans la recherche. Et il disait, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur l'utilisation des compétences, la valorisation des compétences qu'un docteur a acquis dans la société. Alors on disait oui, mais ça c'est hors UNIF. Alors on disait oui, mais néanmoins, est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'UNIF de réfléchir à ça, hein. Je vois des têtes qui font oui, donc Et quelqu'un dans notre groupe a aussi dit que, en généralisant ça, qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur la pyramide des âges des chercheurs financés. Hein, que actuellement, il y en a beaucoup au niveau doctorat, un peu moins au niveau postdoc et presque rien à la fin. C'est normal qu'il y ait une pyramide, mais on se disait, est-ce que c'est suffisamment pensé? Et je me souviens que Véronique Alloin avait quand même, moi me semble-t-il, déploré le fait qu'à la fin, il y ait si peu, elle avait donné un chiffre que j'ai oublié, mais de... Bon, c'est, voilà, une réflexion. Et enfin, et là ça a été suscité par la réflexion notamment de Pierre tout à l'heure, on a quelques réflexions sur le genre. On a repris en fait l'idée qu'il faudrait mieux former les membres des commissions, notamment avec des données statistiques, mais d'autres aussi, sensibiliser. Oui, on n'était pas tous d'accord sur l'idée qu'il fallait des quotas dans les commissions, mais c'est une idée qui est arrivée. Des critères mieux adaptés aux chercheuses, et quelqu'un a cité la charte européenne du chercheur, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit qu'il faut un meilleur environnement possible pour le chercheur, et que c'était aussi une base de ce genre de choses. Voilà.
Oui. Un bref commentaire, mais il faut qu'on passe au dernier. La question des quotas de la politique des genres est particulièrement subtile, parce qu'on a vu des femmes arrivant à un haut niveau de carrière avoir des politiques machistes.
Oui, ça a été dit dans notre groupe aussi, ça.
Les machistes pensaient que les femmes sont meilleures que les hommes.
Question ? Remarque ? Suggestion ?
Ah, juste une chose, je ne comprends pas. Vous avez fait plusieurs. Éric Muraille, je le dis.
Si j'ai bien compris, ça revient à ça. Donc des critères différents en fonction de la commission et adaptés au profil particulier de chaque personne. Mais si vous personnalisez le...
Non, la granularité, c'est la commission, la discipline, pas la personne.
Ben, si on doit estimer un profil particulier en fonction du fait qu'il est plus dans la recherche, qu'il est plus dans ci, plus dans là, ça revient quand même un peu à une personnalisation, à mon avis. Mais bon, même si on reste dans le général, comment est-ce qu'on peut comparer les profils? Parce qu'il faut quand même à un moment les classer pour décider ceux qu'on va payer et ceux qu'on ne va pas payer. Donc je n'aime pas cette histoire de classement non plus, mais moi ça me paraît quand même une étape. Si on ne peut pas payer tout le monde, il faut quand même les classer. Donc il faut des critères qui soient équivalents pour chaque personne. Sinon, on peut aussi se plaindre d'avoir été évalué d'une telle manière, une autre personne d'une autre manière.
Mais est-ce que les critères sont... Enfin, je crois que les critères sont toujours multiples. Hein. C'est une chose que tu développais la fois passée. De toute façon, les critères sont multiples. Même si on évaluait que la recherche, par exemple. Hein. Bon, dans la réalité, il y a différents types de recherches. Même si on évalue que la recherche de biologie sur les fourmis, il y aura différents types de recherches. Donc là, ce qu'on fait simplement, c'est de proposer une plus grande diversité de critères. Après, il faut être clair sur les critères, mais je ne crois pas que ça change fondamentalement.
Donc, plus de critères.
Oui, plus de critères, une plus grande diversité des critères. Oui.
Mais qui ne s'agrège pas nécessairement en une seule mesure.
Oui.
Je permettrais strictement les ordres.
Oui.
Avoir des données et puis au moment devoir prendre des décisions.
Cette décision, on ne peut pas ranger.
Mmh, la décision est un agrégé. Hein, vous financez ou ne financez pas, ça va bien. Oui.
Avec une dimension subjective, c'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on peut juger les chiffres. Peut-être que pouvoir assumer cette part,
oui,
prise de responsabilité.
Voilà. Donc à nouveau, je serai juste le porte-parole et encore, j'espère que je vais pas trop trahir l'esprit du groupe. Donc on était une douzaine avec des disciplines très différentes. Donc je traitais d'interdisciplinarité. Donc on avait des gens du biomédical, ingénieurs, des biologistes, sociologues, philosophes, sciences politiques, sciences économiques. Donc on a déjà vu que l'interdisciplinarité, ça peut partir dans tous les sens. En termes de constat, on s'est rendu compte qu'en tout cas, beaucoup de gens disaient que l'interdisciplinarité pourrait prendre plus de temps aussi. Hein, donc faire émerger de la connaissance, du savoir, prend peut-être plus de temps, encore plus, ne fût-ce que comprendre qu'une même un même objet pourrait être compris ou analysé de manière différente selon son spectre, selon son paradigme, selon la manière dont on l'analyse ou on le voit d'une discipline à l'autre. Donc ça prend du temps. Et notamment dans l'évaluation du coup de cette interdisciplinarité, c'est un élément important parce que quelquefois on voit que l'interdisciplinarité est mal évaluée parce qu'on ne voit pas directement comment est-ce que les différentes équipes interagissent ou peuvent directement interagir, alors qu'il y a un grand élément qui est dans l'intelligence collective, dans justement l'émergence autour de ce travail interdisciplinaire. On s'est rendu compte aussi que c'est peut-être plus souvent, quand on pense qu'on fait l'interdisciplinarité, on en fait de la pluri ou de la multidisciplinarité, hein, c'est-à-dire qu'on met des gens de disciplines différentes autour d'un même objet, mais c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose de commun qui émerge de ceci, et cette interdisciplinarité, l'émergence d'un objet commun, pour dire les choses telles qu'elles sont, par exemple, d'un article commun, par exemple, et prend aussi beaucoup de temps, peut être encore plus compliqué lorsqu'on sait que l'évaluation est souvent une évaluation disciplinaire, facultaire, par exemple, et donc on peut avoir des grilles d'analyse différentes, et on ne reviendra pas sur la grille de Solvay. Donc, un élément, donc j'arrive petit à petit aux propositions, donc aussi dans les propositions, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, souvent on en a parlé la fois passée quand Véronique Alloin était venue, que donc il y a une compétence évidemment disciplinaire, hein, pour faire l'interdisciplinarité, c'est évidemment aussi ça, mais il y a aussi une compétence, comme on l'a dit, dans ce mélange de disciplines, et donc les personnes qui l'évaluent doivent avoir cette compétence aussi, on pense. Et donc, c'est-à-dire trouver, et c'était une des difficultés, si j'ai bien compris, ce que nous avait dit Véronique Alloin, ou même Jean-Pierre Bourguignon, c'est d'avoir des gens qui, justement, ont déjà ces caractéristiques, ce background interdisciplinaire, quitte à demander, finalement, aux personnes qui analysent, qui évaluent ces projets, jusqu'à quel point est-ce qu'ils pensent qu'ils sont compétents dans un élément ou dans une autre du dossier, par exemple. Hein, on pourrait à ce moment-là, ici, jusqu'ici, par exemple, le FNRS demande de vous dire jusqu'à quel point vous êtes fort lié à une discipline ou à une autre, mais on pourrait imaginer que, de la même manière, on pourrait renvoyer ça à l'expert. Je ne sais pas si, je ne pense pas que ça se fait, mais peut-être. Et donc, en tout cas, ça permettrait aussi d'avancer dans ceci. Un autre élément, à nouveau, dans les propositions, alors, c'était du brainstorming, notamment essayer d'avoir des endroits spécifiques qui permettent de développer cette interdisciplinarité, parce qu'on s'est rendu compte, on est parti de là, hein, qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité, qu'il y a de nombreuses thématiques dans lesquelles on pense que l'interdisciplinarité est importante. Maintenant, donc, on voit qu'elle est difficile. On parle de formation spécifique à l'interdisciplinarité, visiblement on en connaît de Louvain à Ronsa, en partie. Et je ne pense pas qu'on en ait ici. Oui.
Oui, en environnement.
Ah ben voilà, donc en environnement, mais comment est-ce qu'on développe vraiment cette recherche interdisciplinaire, dans le thème des recherches, hein. Ou aussi des fonds spécifiques d'expérimentation, des projets peut-être plus risqués, ça ne doit pas être des fonds énormes, hein, on ne parle pas de projets ERC ou de gros projets, mais des fonds spécifiques qui permettent d'expérimenter, notamment dans les projets interdisciplinaires, visiblement ça existe en Angleterre, donc de dire voilà, on vous donne, ou par exemple on finance, c'est déjà un beau fonds dans ce cas-ci, mais un boursier interfacultaire, donc spécifiquement ici, en sachant que jusqu'ici, quand on sait par exemple pour les miniarques, ben souvent l'interfacultaire ça doit passer ou ça doit être poussé par les deux facultés, ici ça serait un financement spécifique. Un des éléments qui ressortait quand même assez fort de discussion, c'est qu'on pensait tous, je pense, qu'il faudrait des financements assez spécifiques quelquefois pour des projets interdisciplinaires. Pas tous, mais en tout cas sur ceci, ça peut être des bourses interfacultaires, ça peut être une journée de recherche ou des éléments en tout cas qui touchent à ça. Je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à tout ce que j'ai mis. Et donc un élément très important, c'est qu'évidemment quand on évalue un projet interdisciplinaire, les experts doivent avoir peut-être déjà fait cette logique où c'est des projets interdisciplinaires, mais la grille d'évaluation doit aussi être interdisciplinaire. c'était un élément, et donc on repart un petit peu dans le débat, hein, mais notamment une personne disait, ben, c'est pas la même chose d'être pointu, c'est pas être pointu, elle n'a pas le même sens dans un projet monodisciplinaire que dans un projet interdisciplinaire. Et si je me souviens bien de ce que disait Véronique Alloin, c'était la même chose. Comme ils sont forçats, ils ont visiblement des taux de succès qui sont inférieurs. Ben, souvent, donc là c'est une commission pour les personnes qui sont peut-être pas l'habitude d'avoir, qui est spécifique à des thématiques de développement durable, qui a donc plus tendance à avoir des projets interdisciplinaires. Et visiblement, un des éléments, c'est que souvent l'expert disciplinaire juge que le projet interdisciplinaire n'est pas assez bon, n'est pas assez pointu disciplinairement. Donc ça, c'est un élément, c'est changer de lunettes et évaluer, avoir une grille d'évaluation qui serait différente pour les projets interdisciplinaires. Voilà, alors et finalement, dernier mot, quelques exemples. Visiblement, il y a déjà pas mal de bonnes choses, j'en ai parlé en Angleterre. Il y a des guides sur l'interdisciplinarité, sur la recherche interdisciplinaire qui existe en Angleterre, qui pourrait être intéressant. Et en termes d'évaluation, on a entendu un retour assez positif du FRESH, où là, il y a un panel qui est interdisciplinaire, où les différentes personnes, visiblement, prendraient aussi la parole, et ça fonctionnerait assez bien. Voilà. J'espère que j'ai pas trop trahi. Je vois une personne. S'il y a des questions, un vendredi à 5h.
Oui. Je voudrais réagir à une chose concernant la pyramide de financement, ou plutôt, disons, l'entonnoir des financements. Hein, l'entonnoir des financements. Là aussi, je trouve qu'on devrait avoir une réflexion sur s'il faut le concevoir de la même façon dans les différentes disciplines. Il y a des disciplines, clairement, en sciences appliquées, où un doctorat est valorisable à l'extérieur du monde académique, etc., et où ça a du sens de former beaucoup de docteurs, si on peut dire, dont on sait bien qu'ils n'auront pas de carrière post-doc et puis académique ou de chercheur définitif. Il y a des disciplines où, en lettres, en histoire, en philosophie, où en gros l'essentiel des débouchés professionnels, on forme un docteur essentiellement pour une carrière de type recherche académique. Hein, recherche ou enseignement académique. Et parfois aussi l'enseignement supérieur. Bon, hein, mais je veux dire, alors, et là peut-être qu'il faudrait pour ces disciplines-là repenser cet entonnoir en disant donnons moins de financement pour lancer des chercheurs aspirants et puis par contre assurons plus de possibilités post-doc et puis de stabilisation dans ces disciplines, peut-être. Hein. Et en particulier, j'ai déjà eu une discussion notamment avec Isabelle Halleux sur la question de savoir à Liège sur est-ce qu'il faut former nos docteurs à se préparer à autre chose, si on peut dire, hein, à valoriser ailleurs. Et je suis d'accord avec cette idée que c'est pas mal de leur donner des outils. Mais en même temps, j'ai l'impression que si on forme un docteur, c'est bien pour former quelqu'un de pointu dans quelque chose, et on ne doit pas simplement former quelqu'un qui, en technique de communication, etc. Est-ce qu'on forme un docteur si c'est pour faire quelqu'un qui a la technique de communication? Si on forme quelqu'un de pointu, c'est aussi pour qu'il ait les compétences pointues. Mais je vois bien que vous n'êtes pas d'accord.
Je crois que c'est vraiment une question très très importante qui a été abordée. Je pense que la formation doctorale, c'est une formation par la recherche. Ce n'est pas une formation principalement pour la recherche. Les docteurs acquièrent des compétences qu'il faut pouvoir, et c'est pour ça qu'on cherche d'ailleurs entre collaboration interuniversitaire, à fournir des outils aux jeunes docteurs pour qu'ils puissent mieux prendre conscience eux-mêmes de leurs compétences et développer certaines de leurs compétences. Mais effectivement, cette formation spécifique qu'ils ont eue, c'est pas une formation pointue, c'est une formation de compétences qu'il faut pouvoir valoriser. Alors, un des grands problèmes, quand j'étais jeune, déjà, c'était une des questions, c'est de faire accepter la valorisation du diplôme de doctorat dans toute une série de domaines où il est utile de le reconnaître, par exemple dans l'administration publique. Alors, on va bien modifier les financements des instituteurs et des régents quand ils auront des années supplémentaires, la valorisation de la formation supplémentaire par la recherche, je pense que les Français sont beaucoup plus avancés que nous sur ce plan-là, cette formation-là doit être valorisée. Donc, ça me semble un des objectifs importants. C'est un peu marginal par rapport à l'évaluation, mais c'est vrai que ça touche à cette question vraiment compliquée. Sur le fait qu'il y a un effet d'entonnoir, il ne faut quand même pas complètement se tromper. Il y a actuellement, je crois, 350 chercheurs qualifiés au FNRS. Il y a je ne crois pas qu'il y ait plus que 350 aspirants. La question, c'est que pour des raisons purement de démographie... Non, ils sont là. Non, mais le nombre de gens qui sont là... La question, c'est que pour des raisons démographiques, on a engagé énormément de chercheurs qualifiés il y a une vingtaine d'années, qui vont commencer à partir à la pension seulement dans les années 2020-2025. Et là, on va se trouver dans une situation avec énormément de départs à la retraite. On va de nouveau nommer énormément de gens très facilement. Et on va préparer les problèmes de la période suivante.
Déjà voir les heureux d'aujourd'hui qui auront un tapis rouge.
Pas d'aujourd'hui, mais de...
Non, en oui. Culotte courte, mais...
Oui. Je voulais juste dire un petit mot sur la... Ah, excuse-moi, Isabelle.
Oui.
Bon. Donc c'était par rapport à, puisque j'en étais encore à l'environnement, à l'interdisciplinaire, donc que là aussi il faudrait peut-être distinguer deux valeurs d'une recherche interdisciplinaire. Ce qu'elle apporte à la connaissance d'un objet qui la demande, hein, ça ne veut pas dire les opposer, mais ça veut dire distinguer, notamment dans l'évaluation de ce projet, ce qu'elle apporte à l'approche de l'objet, à rendre compte de l'objet, mais aussi ce qu'elle apporte aux chercheurs eux-mêmes en termes de mieux situer leur propre discipline par rapport aux autres. C'est seulement quand on est autour d'un objet avec d'autres disciplines, qu'on comprend mieux la force de sa propre discipline, mais aussi ses limites. C'est-à-dire que si on veut parler de responsabilité des chercheurs, l'interdisciplinaire est un bon moyen, parce qu'ils comprennent là que le monde n'est pas fait à partir de leur théorie, mais rencontre d'autres théories, d'autres pratiques, d'autres intérêts. Je crois que c'est une formation, une recherche même disciplinaire plus responsable qu'un brin d'interdiscipline concrète.
C'était Johnny d'un coup. Mon expérience de l'interdisciplinarité, notamment quand on voit l'évolution de l'Institut de physique de Prigogine et tout, c'est qu'à un certain moment, et c'est presque, moi c'est un constat que j'ai fait de plusieurs instituts interdisciplinaires que j'ai vécu, c'est qu'il y a un moment une mainmise d'une discipline sur les autres. Bon, mais dans le cas de l'aventure Prigogine, c'était quand même la physique, l'intelligibilité au sens physique qui commençait à l'emporter un peu. Mais je veux dire que moi, je n'ai pas trop de difficultés à une évaluation disciplinaire dans un environnement interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, qu'une discipline, la physique dans un cas, la sociologie dans un autre, la psycho dans un autre, prenne le dessus lors de la pratique d'évaluation, les disciplines sont à ce point spécialisées aujourd'hui que ça me semble difficile de laisser l'interdisciplinarité jusqu'à l'évaluation. C'est-à-dire que réunir des comités, enfin bon, j'étais pas dans votre, peut-être que vous m'auriez convaincu du contraire, hein, mais de pousser l'interdisciplinarité jusqu'à l'évaluation me semble qu'un exercice assez casse-gueule. Ça n'est pas décourager l'interdisciplinarité que de dire à un certain moment, lors d'une évaluation, on va la laisser disciplinaire pour autant que justement, parce qu'il faut que ça apporte quelque chose à la discipline. Les disciplines sont très spécialisées aujourd'hui. C'est le moins de ma position.
Je vois qu'il y a des...
Juste peut-être pour te répondre, il y a le côté synergique. Et donc, si tu es hyper pointu dans le domaine et que tu ne juges que le côté hyper pointu du domaine, tu ne jugeras pas de la qualité du projet et de cette nouvelle connaissance qui va émerger d'avoir mis ensemble ces disciplines. Voilà. Juste un petit dernier chose, parce qu'on a parlé de genre. J'ai assisté à une action au COST, justement, sur la recherche interdisciplinaire européenne. Il y a beaucoup de femmes dans l'interdisciplinaire. Je vous laisse la réflexion. Pourquoi ?
Non, mais c'est une question ouverte.
Il y a... Je sais, j'ai la réponse, j'ai pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans tout ce que j'ai entendu et dans notre atelier, mais apparemment des comptes rendus qui est fait, c'est qu'il n'y a absolument aucun procès d'intention qui est fait aux évaluateurs. Hein? Donc je veux dire que, probablement pour la bonne raison qu'on est tous évaluateurs d'ailleurs, de temps en temps. Donc on ne pense pas que les évaluateurs, même si on est parfois fâché d'une évaluation, on ne pense pas que les évaluateurs sont de mauvaise foi, rares exceptions près. Mais on se rend compte qu'il y a un besoin de cadrer leur travail, parce que justement, ils sont parfois eux-mêmes acteurs d'une construction sociale qui peut être perverse, parce qu'ils sont acteurs de déficit dans la politique de genre, etc. Donc il faut d'une certaine façon encadrer leur travail. Et là, il y avait une petite... À un moment donné, il y avait un point en débat dans le groupe, finalement, sur la notion même de grille d'évaluation. Parce que si je donne une grille... Ça a été dit ce matin. Si je donne une grille d'évaluation à un évaluateur, il va devoir s'y conformer. Or, cette grille est déjà porteuse de valeurs. Mais d'un autre côté, la tension, elle est que, donc on se rend compte de la perversité possible de la chose, mais d'un autre côté, on voudrait bien que l'évaluateur soit cadré, c'est-à-dire qu'il réponde à la question. Hein, et donc, par conséquent, qu'il évite de trop céder à des considérations émotionnelles, parce que juste, il aime bien le type ou la personne qui soumet, que sa review soit positive. Et donc, ça met vraiment en évidence l'importance, ce que moi j'ai appelé la fusée à trois étages, l'importance de chaque niveau de l'évaluation. C'est-à-dire que l'expert, il fait ce qu'on lui demande. La commission, elle est là pour juger sur le qualitatif. Et puis, vous avez au-dessus des instances exécutives qui, éventuellement, peuvent être stratégiques. Le tout qui s'inscrit dans un dialogue. Mais enfin, il faut quand même que chacun respecte son boulot. Et ça, c'est un avis personnel. Je ne crois pas que c'est ressorti de l'atelier. Mais... peut-être qu'un des déficits de l'évaluation vient justement de la confusion des genres.
Ça, c'est juste, juste dire que c'est une des conclusions principales du rapport à autre chose, c'est la nécessité de clarifier les niveaux d'évaluation et d'assurer en quelque sorte une cohérence entre ces niveaux. Hein.
Si je peux dire, je crois que il n'y a pas un niveau où un évaluateur peut être simplement hi, je fais ce qu'on me dit, je veux dire. C'est... Par contre, l'idée qu'il puisse faire un rapport où il remplit la grille, mais où il commente le rapport de la personne à la grille, c'est ça qu'il découvrira aussi. C'est ici, nous avons un parfait sale con qui correspond parfaitement à la grille. Qu'est-ce que vous faites? Ici, nous avons quelqu'un de très intéressant, mais la grille coule. Qu'est-ce que vous faites? Je renvoie, mais signé.
Une question que vous avez fait émerger, qui va pas dans le sens, c'est...
Une question que vous avez fait émerger, qui était la possibilité pour les évalués de discuter de la grille d'évaluation. Enfin, à un moment... Alors, je me demandais, est-ce que vous pensez une procédure systématique où... On les amènerait aussi à remplir des cases qui seraient indépendantes, hein, qui ne seraient pas envoyées à la commission en même temps que leur tour. Mais il me semble qu'ils n'auraient pas posé les bonnes questions. Enfin, il y aurait quelque chose comme ça. Est-ce qu'on donnerait la possibilité, par ailleurs, il faut pas que ça perturbe leur évaluation, il faut pas qu'ils n'osent pas faire des critiques éventuellement sur la manière dont la question a été posée, parce qu'ils auraient peur que ça donne une mauvaise image d'eux. Est-ce que c'est ce genre de dispositif que vous avez pensé?
Alors, c'est pas à ça que je pensais, parce qu'effectivement, à l'échelle individuelle, ça pose d'énormes problèmes, hein, qui viennent d'être expliqués. Bon, en fait, la discussion est venue sur le tapis parce qu'on a discuté en particulier la procédure d'évaluation du FNRS. On a expliqué comment cette procédure avait d'abord été imposée d'en haut. Madame Malouin n'est pas là pour se défendre, mais enfin, tant pis, je vais le dire comme ça. Et puis, après, il y a eu un dialogue au niveau syndical même, pour finalement arriver à une situation qui, si elle n'est pas sans faille, est quand même beaucoup plus consensuelle. Voilà. Mais pour sortir du débat syndical à proprement parler, la valeur qui en ressort est que, ben, on est chacun acteur de la construction des sciences. Et donc, par conséquent, on est... Mais ça se fait à un niveau... Non, je termine la phrase. On est chacun acteur de la construction des sciences, donc par conséquent, on a chacun son mot à dire sur la façon dont la science s'organise. Mais je ne conçois pas au niveau individuel. Ça, c'est pas...
Moi, ce que je constate, c'est quand même qu'il y a une volonté de recomplexifier les modes d'évaluation. Pour avoir eu quelqu'un du FNRS dans notre commission, tu te rappelles, à chaque fois, sa ligne défensive, c'est « mais jamais ça passera, c'est pas faisable, c'est pas faisable ». Mais c'est quand même... Oui, bien sûr, on avait le droit d'imaginer, et de fait, toute notre réflexion va sur une recomplexification, singularisation des disciplines, possibilité de rétroaction, d'évaluer, etc., des choses qui n'existent... Enfin, qui... Bon. Et c'était comme ça avant. On s'est rendu compte que par l'informatisation croissante, par les outils qu'on avait à notre disposition, on a été vers une standardisation, une simplification. Le H-index étant évidemment le paroxysme de cette simplification, de cette standardisation, personne n'en veut. Mais néanmoins, c'est l'évolution, mais c'est pour dire que ces critères existent et il faut les prendre en considération. La difficulté de mettre en place certaines recommandations vont certainement en interdire, ou les rendre extrêmement inopérables. Les lever de bouclier, faites pas d'interview s'il vous plaît, commencez pas à standardiser, enfin il va falloir faire des standardisations, ne poussez pas la granularisation jusqu'au profit.
voilà, c'est difficile de prendre en considération ce critère, mais on voit bien que toute notre attitude va vers une recomplexification des modes d'évaluation. Et,
J'ajoute l'élément que j'ai dit, c'est-à-dire que, par ailleurs, même si on décidait ici et maintenant de changer les critères, dans la mesure où le FNRS est lui-même est évalué,
enfin, doit arriver à certains résultats, ou les universités. Est-ce que les universités oseraient évaluer suivant d'autres critères que celles qui vont déterminer elles-mêmes leur propre ranking, etc. Ça va être aussi dans la faisabilité de ce qu'on vient. Hein.
Alors, je vais interrompre la discussion. Je crois que c'est vraiment très heureux qu'elle se termine par des échanges qui font état aussi de notre perplexité par rapport à ce que nous avons pu produire en termes de propositions, puisqu'il va de soi que nous restons ici, dans la réflexion et le partage simplement de certaines inquiétudes, mais aussi espoirs par rapport à ce que l'évaluation en général peut apporter. Donc je ne conclurai pas davantage, simplement à vous dire que sur le site de penserlascience.ulb.ac.be, on va essayer de mettre en ligne le plus rapidement possible les enregistrements de nos rencontres d'aujourd'hui, de mettre également aussi le plus rapidement possible les textes des exposés qui ont été présentés ce matin. Et,
Au moins les PowerPoint,
quelque chose. Il nous faut quelque chose. La publication, je vous en avais déjà parlé ce matin, donc je n'y reviens pas. Et puis, en revanche, vous annoncez que, bien sûr, Penser la science va continuer sur d'autres sujets à partir de l'année prochaine. Donc, voilà. Et un drink auquel vous êtes bien entendu un tout grand merci à toutes les personnes qui ont assuré le soutien logistique de ce colloque et en particulier à Quentin Yernaud. Voilà. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a un drink qui vous attend encore tout en bas.